Bah alors, t'es pas à Cannes non plus, Père Castor? Pas cette année?
Ah non,
Non.
non, j'ai fait l'impasse et ça date, hein. La dernière fois que j'étais à Cannes, c'était il y a 11 ans.
Ouais, moi j'étais jamais à Cannes, figure-toi. J'ai fait Essonne l'année dernière, mais là, Cannes, non. Toujours pas. Peut-être l'année prochaine.
Ouais, pas deux dans la même saison.
Yo les gars, ça va?
Ah, salut
Salut
Piof,
Pionf.
on parlait de Cannes. Toi non plus, tu n'y es
Ah
pas,
bah oui,
de
c'est en
toute
ce moment.
évidence. Ouais,
Ah bah
les
non,
As d'or.
bien sûr que non, j'en ai rien à battre de Cannes.
Vous avez écouté les débriefs quand même, des potes ou pas?
Ouais, je les ai écoutés dans le train là.
Alors moi, tu sais, j'écouterai quand ils auront tout fait. Voire, tu sais, ceux de l'année dernière, je les avais écoutés au moins 3 mois après. De toute façon, je m'en fous un peu des nouveautés, moi, tu sais. Même si là, tu vois, j'ai quand même joué à un jeu plutôt récent, récemment, tu vois.
Ah ouais? T'as joué à quoi?
Eh ben, les gars, j'ai joué à Rock Hard 1977. Est-ce que vous y avez joué?
Du tout, moi
Ça me dit
je le
rien.
confonds toujours ce jeu. C'est le truc qui a été fait par la nana de Blondie. Je confonds toujours ces groupes.
Ah non,
Non,
pas loin,
c'est.
c'est la nana des Runaways, la
Ah, des
bassiste des
Runaways, c'est ça.
Runaways.
Et je le
C'est ceux
confonds
qui chantent
toujours, ouais, avec.
Cherry Bomb.
Je le confonds toujours avec un autre jeu qui a été fait par Candice Harris. C'est une nana qui travaillait chez BGG et qui est aussi sur le rock, mais je me rappelle plus du nom. Et je confonds toujours les deux jeux, mais peu importe.
Ah ouais, je vois pas c'est quoi l'autre jeu, tu vois, pour le coup. Mais pour le coup, c'était effectivement ça qui m'avait un peu attiré, c'était de me dire, ah tiens, rigolo, tu vois, un jeu dont l'autrice, c'est genre une ancienne bassiste de hard rock, tu vois, c'est hyper intéressant, et qui du coup parle bah, un peu de, j'ai envie de dire, de son sujet, tu vois.
On pourrait croire que c'est un Guitar Hero, la couverture.
Ouais, c'est un peu... Bah en fait, tu vas, c'est tout le principe du jeu, c'est que thématiquement, tu vas incarner une personne qui va être dans un groupe de rock et qui va être wannabe rocker, quoi. Et du coup, tu vois, à la base, c'était surtout ça qui m'avait intéressé, même si, bah, tu sais, j'ai toujours une petite crainte quand tu te dis, oula, c'est quelqu'un qui débarque comme ça, qui est une entre guillemets une célébrité ailleurs, tu vois. Est-ce que c'est pas un truc marketing et tout?
Ouais, bon là, il n'y a pas trop le coup de la licence.
Ouais, c'est ça.
Donc,
Heureusement, il n'y a pas de licence.
Je crois que c'est une grosse gameuse, hein, par contre, hein.
Ben voilà,
En
c'est
vrai.
ça. C'est ce qui m'a rassuré, c'est que je me suis dit, tu sais, je me suis un peu renseigné sur la meuf. Et en fait, du coup, c'est effectivement une grosse joueuse de jeux de société. Tu sais, genre, elle a été souvent invitée chez Board Game Geek, tu sais, pour faire
Les Game
des vidéos,
Night.
là, tu sais, quand les Game Night, exactement. Et puis, apparemment, c'est aussi une espèce de championne de Jeopardy, tu sais, le jeu télé, là,
Ouais.
aux États-Unis.
Tu
Donc.
dois poser la question à partir de la réponse.
Ouais, voilà, exactement.
Je vois
Et
qu'elle a un
apparemment,
profil
bah, du coup,
BGG
tu
en
vois.
plus, tu vois. Depuis 2018, elle a un
Ah!
profil BGG, donc c'est bon.
Si tu regardes son Instagram, tu sais, elle prend tout le temps en photo ses chats et tout. Mais tu sais, derrière, tu vois sa ludothèque avec des dunes Imperium et des trucs comme ça derrière, tu vois. Enfin, donc tu vois que c'est vraiment une gameuse, quoi. Donc tu vois, c'est un peu rassurant. Tu te dis, c'est pas quelqu'un qui non plus sort de nulle part. Mais en même temps, je me dis, elle peut quand même apporter sa vision qui est quand même un peu différente. Et c'est ce que je cherchais un peu dans ce jeu. Et finalement, tu vois, j'ai pas été déçu parce que moi, ça m'a fait penser évidemment à des jeux, tu sais, comme La Quête du Bonheur. Dont je parle souvent sur Proxy Jeux, hein, mais c'est des jeux que moi j'appellerais naturalistes, tu vois, au sens littéraire du terme, hein, comme les romans d'Émile Zola ou les trucs comme ça, tu sais, où ça cherche à dépeindre la vraie vie, quoi. On pourrait dire des jeux réalistes, je sais pas comment on pourrait dire, mais où
Ouais,
tu
ou
joues.
des fois tu utilises le terme simulationniste, mais ça c'est peut-être quand c'est plus
Mais si.
en mode hard science.
Ouais, simulationniste, c'est plus vaste comme terme, je dirais. Tu vois, simulationniste, bah. Tu t'es d'accord, tu parles aussi des wargames, tu vois, quand on dit
Oui, ou
simulationnisme.
de Donjons et Dragons, alors que, tu vois, dans les jeux
C'est
de
vrai.
rôle, alors que c'est pas du tout un univers du quotidien, enfin ça peut être le quotidien, mais d'un univers fictif, alors que là, comme dans La Quête du Bonheur, t'as un côté du quotidien, de la vraie vie, quoi, plus du slice of life, un
Ouais,
peu dans
ouais.
les animés et tout, quoi.
Oui, bah, tranche de vie, on dirait, ouais, plus, effectivement.
Rien que la gueule des billets, là, je suis en train de regarder des photos, là, sur BGG, c'est impressionnant, on dirait des... Ou alors,
Ouais.
ils ont remplacé
Ouais.
les vrais billets de dollars...
Mais ils ont mis des petits trucs dessus, tu sais, pour que tu confondes pas. Genre, tu sais, il y a des bisous dessus, ou il y a des griffons, ils ont griffonné un petit symbole anarchie, ou des trucs comme ça, tu vois, pour montrer que c'est tes billets à toi et tu t'en as rien à foutre, tu vois.
Ok.
Mais du coup, tu vois, moi j'adore La Quête du Bonheur, et c'est vraiment un genre, tu vois, le naturalisme que j'aime bien, comme dans, tu vois, Fils de Freud de Fetefeten, ou des jeux comme ça, tu vois. Et là, du coup, c'était cool d'être dans un espèce de contexte spécifique qui est bah, la montée, si tu veux, de la mode du hard rock dans les années 70, tu vois. Et ce qui aide à ressentir aussi ce truc réaliste, c'est qu'en fait, tu joues pas du tout une star, en fait. Tu joues, comme dit, une étoile montante, on pourrait dire. Et au début, bah, t'es juste un connard et il faut que tu ailles faire ta démo, que tu ailles la présenter à des, tu vois, à des studios et tout. Tu sais, si on faisait ça en jeu de société, en fait, tu serais genre un auteur de jeu de société et puis tu devrais faire ton proto et tu devrais aller le présenter à des éditeurs. Tu sais, c'est un peu cette vibe-là, quoi. Et donc ça je trouve ça assez cool. Tu vois, tu commences en étant rien du tout, quoi.
C'est Kingdom Come, mais en jeu de société, quoi.
Oui. Puis au début, tu sais, t'as ton taf de merde que t'es obligé de faire, tu vois. Et t'as plein de petits trucs comme ça. Et donc, je trouve ça cool parce que ça raconte quelque chose, même si, par rapport à la quête du bonheur, je trouve que t'as un gros pas mécanique qui va un peu faire que c'est moins bien que la quête du bonheur. Parce qu'en fait, Rock Hard, ça reste quand même une espèce de grosse pose d'ouvrier. Alors, si j'ai bien compris, c'est le même système que Viticulture. Moi, je sais pas, j'ai pas joué à Viticulture, mais tu sais, il y a un truc où le plateau est divisé en trois parties.
Ouais.
Et on fait d'abord
avec
la pose
saisons,
d'ouvrier.
Ouais.
Ah, dans Viticulture, voilà, c'est des saisons, c'est ça. Et on fait d'abord une pose d'ouvrier sur une partie du plateau, puis sur une deuxième, puis sur une troisième. Sauf que dans Rock Hard, c'est les moments typiques de ta journée chaque mois. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais globalement à ce moment de la journée, puis à ce moment de la journée, puis à ce moment de la journée.
Donc, genre ta phase d'enregistrement, ta phase de concert. Et
quand
non, c'est possible. Vraiment. Bah justement, si tu dois découper ta journée en trois, ça va faire quoi à votre avis?
Ça va faire le boulot, métro, boulot, dodo. Sauf qu'au lieu de dodo, c'est musique.
Ah non, parce que tu choisis ce que tu fais, puisque c'est une pause d'ouvrier. C'est genre, comment tu coupes la journée, tu vois?
Ouais, bah il va y avoir un moment où c'est la passion ou la musique, tu vois. Ah non, ou bien tu parles des moments où ça va être découpé.
Ouais, la journée, c'est quoi à ton avis?
Bah c'est la nuit.
Normalement, tu dirais matin, midi, soir.
J'essaye de deviner en regardant le plateau, mais... Je bloque sur le plateau infirmerie. Il y a une infirmerie là qui est sur le plateau.
Vous avez cassé mon effet. Vous avez cassé mon effet. Moi, je voulais que vous répondiez matin, après-midi, soir, un truc comme ça. Mais ça, ce serait pas assez hard rock, tu vois.
Ouais,
donc
d'accord.
En fait, non, c'est on se lève l'après-midi, bien sûr.
Ouais.
Ensuite, c'est le soir. Ensuite, c'est la nuit, tu vois.
Ouais.
Voilà, ça, c'est assez drôle.
Ah ouais, ok.
Voilà, c'est des petites blagues comme ça. Mais oui, tu parles de l'infirmerie aussi, c'est parce que. Justement, truc assez rigolo aussi thématiquement, c'est que on peut prendre des bonbons. Tu sais, des bonbons que tu sais, ça te donne un petit coup de boost et d'inspiration et tout ça. Mais si jamais t'en prends trop, tu risques de faire une overdose de bonbons. Clin d'œil,
ouais.
Clin d'œil.
Ah ouais, gare au sucre. Hein. C'est voilà, c'est ça.
Hyperglycémie.
Gare au sucre. Hein. Et voilà, c'est ça, tu peux faire. Et après, du coup, faut que t'ailles en détox parce que t'as fait un pic glycémique, tu vois.
Bah oui.
Tu vois, je trouve ça cool parce que voilà, personne n'est dupe quand on parle de ces bonbons, tu vois. On sait très bien que tu sais, en fait, ben voilà, tu prends des drogues et tout, mais je trouve ça cool que du coup ça aborde notamment ce sujet là qui était un truc je pense assez important dans les années 70, tu vois. Et du coup, bah ben, tu vois, ça essaye pas de le masquer, quoi.
Quand même, il faut quand même pouvoir vendre le jeu à un public machin mineur et tout, du coup ils parlent pas de drogue quand même, surtout que c'est un jeu américain, j'imagine, donc voilà, enfin.
Ouais, s'ils veulent pas se faire estampiller moins de 18, ouais.
Je trouve que c'est une belle manière de le cacher, tu
ouais,
vois.
Ouais.
C'est à dire que ils l'ont pas supprimé, ils l'ont juste édulcoré, on va dire. Mais voilà, du coup, à la fin, moi ce que j'aime bien, malgré donc je vous disais, c'est pas aussi bien que la quête du bonheur parce que il y a un gros pas mécanique à cause de la pose d'ouvrier, etc. Donc des fois tu calcules un peu et tout, nanana. Des fois tu dois penser un peu aux capacités spéciales que t'as et tout, nanana. Mais t'as quand même ce côté, comme dans la quête du bonheur, jeu qui génère une histoire, tu vois. C'est-à-dire qu'à la fin, les choix que tu fais, nanana, ça va quand même raconter un petit peu ta carrière de rocker. Et il y a des effets assez cool, notamment, par exemple, quand tu vas dans la nuit, dans l'action de nuit, tu vas piocher des cartes avec un petit texte d'ambiance dessus. Et bah, ça raconte quelque chose, quoi. C'est pas, tu sais, les textes d'ambiance dans un jeu à l'américaine où t'en as rien à foutre. Et en fait, tout ce qui t'importe, c'est d'avoir une épée plus 2, tu vois. Là, c'est vraiment important parce que c'est un peu le cœur du jeu de raconter quelque chose, je trouve. Tu vois, comme la quête du bonheur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à faire un jeu qui soit hyper stratégique, hyper avec des différents axes, nanana, équilibré et tout. Non, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste de raconter une belle histoire. Et donc, bah, moi, je trouve ça cool que, tu vois, comme j'ai dit, il y ait des petits bonbons qui représentent la drogue. Mais dans la nuit, bah pareil, tu peux aller pécho des gens. Tu vois, ça, moi, j'aime bien quand enfin on aborde le sujet du sexe ou de l'amour ou de la romance, comme on avait fait un dossier dessus, Flavien ensemble notamment.
Ouais, ouais.
Et j'aime bien quand ce sujet est abordé justement dans les thématiques un peu tranche de vie. Et effectivement, dans la quête du bonheur, c'est pareil, tu peux pécho des gens et tout. Donc voilà, tu peux même t'embrouiller avec des gens dans les bars, tu peux les taper et tout, ça c'est cool, tu vois. Alors moi, je vous parle que des trucs un peu trash, mais en vrai, globalement, l'ambiance, elle est plutôt... en anglais, ils disent « wholesome », je saurais pas trop comment traduire
ça. Ouais, c'est très utilisé dans le jeu vidéo, il y a le côté un peu cosy et bienveillant, se sentir bien, petite bulle, des trucs comme ça, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors, je dirais pas que c'est cosy, tu vois.
Ouais.
Je veux dire « wholesome » dans la mesure où il va jamais rien de se passer de grave. Je veux dire, ok, tu vas aller en désintox, tu vois, mais à la fin...
Mais tu ressortiras sans séquelles, ouais, c'est ça.
Voilà, exactement, ouais, tu ressors sans séquelles, t'as désintox, ça a marché, t'as perdu... En fait, dans le jeu, tu perds juste une action, tu vois, c'est un peu chiant, mais c'est pas si grave. Et pareil, t'as beau t'embrouiller avec des gens dans un bar, bon, voilà, c'est juste un événement ponctuel, tu vois. Mais tu vas jamais être vraiment trop dans la merde, ou... voilà, il va jamais se passer des trucs très très graves. Notamment, bah, j'avais vu une critique qui est de ce jeu qui avait fait remarquer assez justement que voilà, le milieu du rock'n'roll est vu comme un truc un peu cool, alors qu'effectivement, ça reste quand même des gros industriels et qu'il doit se passer pas mal de saloperies dedans.
Ouais, et puis notamment, les histoires de fans, tu vois, mineurs, que les mecs utilisent en position de pouvoir et compagnie. Alors là, la situation est différente puisque c'est une personne qui est en train de monter, donc qui n'a pas forcément une fanbase énorme. Mais c'est un milieu assez, qui a ses déboires et ses craderies, quoi.
C'est ça, bah, notamment Jackie Fox a été victime de ça, vous vous renseignerez là-dessus, mais voilà, tu vois, c'est un truc, tu vois, qu'elle aborde pas, mais je comprends aussi qu'elle l'aborde pas parce qu'on est encore dans ce truc un peu édulcoré, grand public, tu vois. Mais voilà, donc globalement, très rigolo, ça raconte des trucs, et t'as une espèce de petit jeu de gestion, mais voilà, où t'as vraiment un sentiment de développement, tu pars de rien et à la fin, bam, tu vas enregistrer un vinyle, ouais, c'est complètement fou et tout.
Et du coup, la mécanique, ce truc-là, se met pas trop en travers de cette narration, t'arrives quand même à la ressentir, même si ça arrive pas au niveau de la quête du bonheur, justement, parce que tu sais, des fois, t'as des jeux où justement, la mécanique, ça va être la barrière et tout le potentiel va être ruiné parce que justement, il y a cette barrière mécanique, quoi.
Ouais, bah c'est un peu comme la quête du bonheur, je dirais, c'est que c'est assez ouvert stratégiquement, tu vois, pour que tu puisses faire à peu près n'importe quoi et c'est pas grave, tu vois. Alors évidemment, tu vas avoir des limitations dans la mesure où, oui, si tu veux aller donner un gros concert dans le plus gros stade du jeu, là, eh ben, il faut que tu possèdes des techniciens avant, tu vois. Donc, c'est ce qui fait que tu as quand même, tu sais, des espèces de choix et des espèces d'angles, mais c'est presque des choix que tu fais purement narrativement plutôt qu'autre
c'est cohérent,
chose. Donc ça, c'est cohérent et du coup, c'est cool, quoi. Un autre sentiment que j'adore à un moment aussi, c'est que au début tu commences, t'as ton métier et en fait si tu vas pas travailler, c'est chiant de travailler parce que tu perds une action pour aller travailler et tout, mais si tu vas pas travailler, tu te prends une absence et au bout d'un certain nombre d'absences t'es renvoyé, tu vois.
Ouais.
Du coup au début c'est hyper important parce que c'est ton générateur de fric, donc t'es obligé d'aller travailler et t'as vraiment pas envie d'être absent à ton travail, et plus t'arrives à générer du fric autrement, donc avec tes concerts ou alors avec tes vinyles, etc., plus tu en as rien à foutre de ton taf. Et du coup, tu sais, il y a vraiment un truc où tu sens le moment où d'un coup, en fait, tu deviens une star du rock, en fait, tu vois.
Ah,
okay,
ouais.
Où t'abandonnes ton métier.
Genre l'action travail, c'est comme l'action journalier à Agricola. Genre le truc minimaliste juste pour récupérer le minimum vital.
Et oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans Agricola, tu vois, l'action journalier, elle est plutôt forte au début. Et il y a un moment, t'as ton moteur de bouffe et t'en as plus rien à foutre, tu vois.
Ouais, t'as la rupture, ça, tu sens le moment de rupture qui, là, se traduit par le changement de statut de ton personnage, quoi.
C'est ça, mais là je trouve que, du coup, vu que ça raconte ton évolution, bah, je trouve ça génial que, du coup, tu vois, il y a vraiment cette évolution. Et ça, c'est assez rare, parce qu'en fait, quelqu'un qui traiterait le milieu du hard rock, je pense qu'il le ferait en mode, t'es déjà une star, tu vois. Tu commences, t'as déjà abandonné ton métier pour devenir rocker. Alors que là, non, en fait, elle a voulu raconter ce moment où t'es dans la merde, tu vois, au début. Tu vois, avant même que tu sois une star, je dirais.
Bah, si c'était un jeu où t'étais déjà la star, ça serait plus un coop où tu combats tu combats contre la chute, en fait.
Peut-être. Mais non, mais ça pourrait même être compétitif, tu vois, où genre chacun joue son groupe et puis tu sais,
on se tient un peu la bourre. Oui, t'avais ça dans Draft and Write Records, par exemple, en jeu à cocher.
Ouais. Puis pareil, tu vois, les objectifs, et puis tu sais, il y a des espèces d'objectifs communs, mais en fait, c'est présenté comme étant les besoins de l'industrie, tu vois, c'est-à-dire, c'est qu'est-ce que les publishers, quoi, les labels...
Disent, quoi.
voilà, les maisons de disques, qu'est-ce qu'elles veulent actuellement, tu vois. Et pareil, ça c'est cohérent, tu vois, c'est pas toi qui décides en fait. Tu vois, ouais. C'est les maisons de disques qui te disent, ben non, nous on veut ça. Sinon,
comme les éditeurs de jeux de société.
Mais oui, c'est incroyable.
Voilà. Enfin... C'est là que tu retrouves les commandes de viticulture aussi.
Ah bah peut-être, ouais.
Ok, ok. Voilà, donc plutôt convaincu, pas, si ça pas, vous, pas au niveau de la quête du bonheur, mais quand même plutôt cool, quoi.
C'est ça, ouais. Je sais pas okay. si vous y joueriez, maintenant que je vous ai dit
ouais, ça. Oui, bien sûr, moi je joue à tout. Même les... D'ailleurs, récemment, ouais, tu vois, je joue à tout, et même les trucs qui me branchent pas plus que ça, ce que j'ai fait récemment.
Ah ouais, genre quoi?
Alors, j'ai joué au Marchand de Karanor, chez un pote, on fait comme ça des soirées régulièrement les jeudis, donc là, il y avait ça. On était 5, ça joue jusqu'à 6, et genre, c'est un jeu, j'en avais jamais entendu parler. C'est pas si vieux que ça, hein, c'est un jeu de 2022, tu vois. Mais ouais, jamais j'avais vu passer ça, c'était un KS, je crois, à l'époque, donc c'est des Français qui ont fait ça. Et je pense que ça a dû être couvert, tu vois, par les influenceurs à l'époque, mais je pense que 2022, c'est une époque où je regardais un peu moins YouTube et tout au niveau du jeu de société. Donc j'avais pas suivi, et donc là, je vois ça, punaise, un jeu dont j'ai jamais entendu parler, c'est pas si fréquent, vas-y, faisons ça.
Ah, mais c'est tout petit, c'est une auto-édition, ce truc.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est le premier jeu de l'auteur, c'est le premier, pour l'instant, le seul d'ailleurs, un jeu de l'auteur, de l'éditeur et tout. Donc effectivement, c'est des gens qui se sont dit, vas-y, on va faire ça. Et donc l'idée est plutôt séduisante, même si pas forcément originale. Déjà, l'univers est ultra stéréotypé, tu vois. Et l'idée, c'est un peu de te faire un jeu d'aventure où tu vas incarner quelqu'un et tu vas voir le monde et tu vas te promener, tu vas devoir aller, tu vas avoir des quêtes, tu vas essayer de te voyager à travers le monde, que ce soit sur terre, que ce soit sur mer, tu vas prendre le bateau et puis tu vas récupérer des ressources et puis tu vas construire des cités et tout, tu vois, un truc un peu... assez libre dans son idée, en tout cas, où ça veut te laisser le champ libre et te dire bah vas-y, fais ça. Et tout ça, c'est pourquoi c'est rigolo, parce qu'en termes de présentation, c'est vraiment à la Dune Imperium, où sur le côté du plateau t'as une échelle de 1 à 10, et quand tu le vois, tu dis ah, ça va être au premier à 10 points de victoire, ça c'est Dune, tu vois. Et alors c'est le cas, sauf que nous on était 5, donc c'était 9 pour raccourcir un peu la partie, mais bon, on s'en fout.
Mais là, ça fait un peu jeu sandbox, que tu dis, tu sais, les trucs, ouais, genre Xia ou
je pense qu'il y a cet objectif là ouais, de, ou même Earthbound Rangers, tu vois, je crois, qui est sorti plus récemment, ou peut-être Galzir, ou des trucs comme ça.
Je sais pas s'il est sandbox, celui-là,
je sais pas, mais en tout cas ouais, l'envie en fait de te laisser explorer un monde un peu à ta guise. Sauf que à la fin, en fait, c'est juste du pick-up and delivery, et où en fait tous les espèces de trucs qui vont te faire gagner des points, donc tu vois, 9 ou 10 points à gagner, c'est une course, et on se doute un peu que chaque point va être important, et ça c'est quelque chose que j'aime bien, où tu te dis ah ouais, ok, c'est une course à... Bon, là c'est 10, c'est quand même pas rien, mais t'es là et tu te dis ah ouais, ok, donc un point, ça a de la valeur. Donc, tu vois, contrairement au truc où t'es à 200, 300 points, qui ont un autre plaisir, qui est vraiment le côté boum, j'ai beaucoup, beaucoup de points. Là, tu te dis, waouh, ok, ça va pas se jouer à grand chose et ça va se gratter petit à petit. Le truc, c'est que chacun de ces points, bah, en fait, c'est effectivement du pick-up and delivery, où, en gros, il y a un système un peu vieillot. C'est pour ça que je sais pas exactement, comme tu vois, c'est le premier jeu de l'auteur et tout, je me dis, je sais pas quelle culture ludique il a pour faire ça. Je vois qu'il y a plein de bonnes idées, tu vois, mais il y a un côté un peu ringard dans la proposition. Je me dis, je sais pas s'il avait beaucoup joué à des jeux assez contemporains, tu vois, et notamment, en fait... C'est un jeu où t'as 4 actions à ton tour, tu sais, et ce truc-là, ça fait un peu vieux, tu sais, le truc avec quand même pas mal d'actions à faire à son tour. Et où tu vois, t'as 4 actions parmi, je sais pas, 5-6, tu peux... Et il y a toujours tu peux faire plusieurs fois la même, gna gna gna, etc. Donc déjà, là-dessus, tu dis, ah ouais, ok, j'ai l'impression de rejouer un peu à Tikal, il va falloir se rappeler à quelle action j'en suis, des trucs comme ça. Bon, c'est pas disparu du monde du jeu de société, hein, mais... C'est quelque chose de moins fréquent que quelque chose qu'on voit aujourd'hui, où vraiment t'as envie qu'à ton tour, pouf, ça snap et t'avances. Et le truc, c'est que c'est justifié, ces 4 actions. C'est parce que pour chaque truc, en fait, chaque petit truc, en fait, chaque action va pas te faire grand-chose. Et du coup, en fait, ils veulent te donner l'impression que pour faire ton tour, bah, il va en falloir un peu plus, parce que sinon, vraiment, tu te fais chier. Parce que je l'ai dit, pick-up and delivery, donc ton objectif pour les points, ça va être soit de construire des cités à certains endroits du plateau, soit d'aller construire des villas à certains endroits du plateau, soit d'aller livrer des trucs à certains endroits du plateau, soit d'aller réaliser des quêtes à certains endroits du plateau. Et les quêtes, comment tu les récupères? Ben, faut que tu ailles à certains endroits du plateau. Et les ressources, faut que tu ailles à certains endroits du plateau. Donc, tu vas tout le temps te promener, machin. Aller, en plus, les ressources, tu sais, elles sont quand même assez spécifiques à un endroit. Tu vois, c'est, par exemple, je sais pas, le bois, tu vas pas pouvoir l'avoir à 5 endroits différents du monde. C'est vrai, il va y avoir, genre, sur le continent principal, un endroit où il y a le bois. Et c'est que là que tu peux récupérer du bois. Et donc, si tu as besoin de bois, ben putain, tu vas passer tes 4 actions peut-être à te déplacer pour aller vers ce bois. Et puis, le tour d'après, tu vas passer 2 actions à récupérer du bois. Et en fait, du coup, tu vois pourquoi il y a 4 actions, c'est parce que chaque petit truc prend 25 ans à faire. Donc c'est pas du tout dynamique, quoi. Et c'est le gros problème du jeu, parce que tu vois, il y a quand même des intentions. Il y a aussi une espèce de mini-moteur, un peu de symétrie, tu vois, tu commences avec un petit pouvoir qui est pas ouf, hein, franchement, enfin, c'est pas des pouvoirs qui ont beaucoup d'identité, et puis petit à petit, tu vas pouvoir récupérer des... Je sais plus comment ils appellent ça, mais il y a... Tu vas avoir une monture qui va améliorer ton déplacement, ou bien tu vas avoir plus de flexibilité dans la gestion des ressources, ou récupérer un peu plus de ressources quand tu récupères des ressources. Tu vois, ce genre de petits ajouts qui vont te créer une petite identité de joueur, mais c'est très très léger, quoi. C'est vraiment pas des trucs game changer. Il y a les artefacts qui sont un peu plus game changer, qui sont plus durs à avoir du coup, mais où vraiment quand tu les récupères, t'en prends deux, t'en choisis un, et t'es un petit peu quand même de ouh là c'est pas mal, et ou tu vois, t'es là et tu dis ouh là ça va me changer ma partie. Alors, c'est pas très fréquent et ça reste des petits ou quoi. Là, j'exagère un petit peu la surprise que j'ai eue quand je les ai vus. Mais disons que c'est le truc le plus enjaillant quoi, qui est. Pareil, tu vois, tu as une phase de revenu, bah, tu peux pouvoir un peu améliorer ton revenu. Le truc, c'est qu'en fait, je trouve que c'est un défaut souvent inhérent au genre du pick-up and delivery assez pur. C'est que ouais, c'est très plan-plan quoi, où t'as un moment, il va falloir que t'ailles là. Et puis bon, du coup, là, l'écriture est ultra stéréotypée aussi, donc c'est pas sauvé par ça.
Et quand tu te promènes, on dirait que tu es obligé de suivre un parcours, là, tu
Bah
peux...
ouais, parce que...
On dirait que tu te promènes en cercle, un petit peu comme dans un Ikea, tu peux pas, t'as pas de raccourci pour aller d'un point A à un point B, tu es obligé de passer par tous les rayons, là, on dirait,
Ouais, non,
sur
pas
la carte.
exactement. Tu peux aller un peu à gauche, à droite quand même, comme tu veux, mais le truc, c'est que ouais, une action égale un déplacement, et donc ou deux déplacements, peut-être, tu vois, mais enfin... Tu vas, enfin, c'est juste long d'aller à un endroit récupérer des ressources et sur le chemin il se passe pas grand chose quoi, donc c'est un peu chiant quoi. Et en fait le truc c'est que
Et
c'est
tu dois
ça
payer
pour
pour
tout.
traverser les continents, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est
Et
ça?
bah tu vois, il y a un pouvoir rigolo où en gros par exemple, je sais plus si quelqu'un autour de la table qui avait ça qui disait bah en plus du coup de base, chacun quand quelqu'un traverse, il doit te donner un, tu vois, parce qu'il y a une taxe sur les ponts, un truc comme ça. Et là, ça crée de l'interaction et tu dis putain bâtard, ouais. Là tu fais chier parce que c'est quand même pas donné, l'argent c'est pas si facile à avoir, bref. Mais du coup, tout ça donne un jeu vachement plan-plan et qui a duré la partie, elle a dû durer 2 heures, tu vois, et en fait, c'est très très répétitif et t'as pas trop le sentiment d'aventure, tu vois, là où ils essayent de te dire, ah, cette quête, tu vas pouvoir faire ci, en fait, parce que quoi qu'il en soit, c'est des ressources qu'il va falloir que tu ramènes à tel endroit. Pour faire ta ville, c'est pareil, c'est des ressources à emmener à tel endroit, donc il faut que tu ailles les récupérer, machin. Et c'est ça qui va te donner un point parmi neuf, quoi. Et donc, tu vois. Il y a cette espèce de mini-moteur, mais t'as pas vraiment d'accélération du rythme, t'as pas vraiment d'explosivité. Et heureusement, il y a quand même un truc et qui marche plutôt. C'est que c'est aussi un jeu de négociation, entre guillemets. Alors, c'est pas un pur jeu de négociation, mais tu peux toujours échanger tes ressources ou contre des pièces. Bon, dans la réalité des faits, c'est que tu vas le faire au début de ton tour quand tu vas en avoir besoin parce que il va se passer des trucs et tu vas te dire bah peut-être qu'en fait d'ici là j'aurais trouvé une autre solution. Donc c'est pas aussi dynamique que ça pourrait l'être. Par contre, moi j'ai au début quand on m'a présenté ça, je me suis dit, oh putain, ça va encore être un jeu de négociation à la Catan où il y a de la négociation mais personne va l'utiliser parce que ça permet trop aux autres d'être plus forts. Là, comme on était à 5, en fait, comme les ressources sont très localisées à certains endroits du plateau, bah. Comme on était à 5, tu vois, chacun va un peu là où il faut pour aller récupérer telle ressource, puis là où il faut pour aller les livrer. Ce qui fait qu'en fait, en général, quand tu as une ressource, comme c'est chiant d'y revenir, bah tu monopolises un peu la ressource. C'est-à-dire que tu vas faire peut-être 3 actions de prise de ressources, ce qui va faire que tu vas prendre 6 ressources. Et genre, les ressources, elles ne sont pas infinies, tu vois, dans la réserve. Et tu as un peu des espèces de situations de monopole comme ça. Mais ce qui fait que, par exemple, si je suis à l'endroit du diamant, qui était une ressource rare pour tout le monde au début, bah en fait, je vais en avoir plein et ça va être assez facile pour moi d'en avoir. Du coup, la ressource diamant va pas valoir beaucoup pour moi. Par contre, ça va être un bon outil d'échange pour les gens qui sont à l'autre bout du monde. Et ce qui fait que les négociations fonctionnent parce que la valeur d'une ressource n'est pas la même selon ta position sur le plateau. Et ce qui fait qu'en fait, on a quand même souvent échangé, tu vois. Et moi, j'avais vraiment peur de ça parce que ce genre de jeu où finalement la négociation, tu la fais pas, là, c'était pas le cas. Et ça débloque un peu le côté où des fois, la ressource que t'as pas, bah, tu vas essayer, quitte à payer un peu plus cher que ce qu'il faudrait, à la récupérer chez telle personne parce que ça te débloque pour un truc. Alors, tu pourrais sans doute rentrer dans des calculs à la con de machin, sauf que tu vois pas en fait les ressources qu'il leur faut exactement pour construire leur ville ou des trucs comme ça. Donc tu vois, t'as quand même des éléments secrets. Donc ça permet un peu de dynamiser le truc. Mais dans l'ensemble, même si tu vois, c'est un jeu plein de bonnes intentions, tu vois, je vois un peu ce que si c'est son premier jeu, ce qu'il a voulu mettre dedans, même l'intention un peu de justement d'aventure, le truc c'est que c'est des défauts qu'on retrouve souvent dans les pick-up and delivery, tu vois, ce truc un peu plan-plan et un peu répétitif et pas très intéressant. Parce qu'il faudrait, tu vois, sur le voyage, mettre plein de trucs qui se passent pour dynamiser le voyage, tu vois, comme ce qu'ils ont théorisé dans le jeu vidéo, tu sais, ou dans les open world. Toutes les X secondes ou tous les X mètres, il faut qu'il se passe un truc pour justement te remobiliser. Ou bien il faudrait pas ça, mais il faudrait une esthétique de l'ennui, etc. Et ce qui n'est pas du tout le but du jeu non plus. Et du coup, en fait, c'est un jeu qui, le principal problème, au-delà du fait de pas être original ni à gauche ni à droite, bah c'est des gros problèmes de rythme, quoi. Où, tu vois, la durée d'un jeu, c'est pas un problème en soi. Tu vois, jouer 2 heures à un jeu, ça me pose pas du tout de problème, tu vois. Le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait un rythme qui soit pertinent pour les 2 heures, quoi. Et ce problème de rythme, tu l'as aussi dans des jeux de 15 minutes, hein. C'est même pas la question de la durée globale. Mais là, ouais, du coup, ça décolle jamais vraiment, t'es un peu redondant, il y a un peu d'interaction à gauche à droite, t'as aussi des effets un peu de Texas avec des cartes marché noir ou quoi, mais pareil, ça fait un peu artificiel. Donc voilà, tu vois, je vois l'intention, il y a des gentils, des bonnes promesses, quoi, enfin, tu vois que le gars, il a voulu faire un truc un peu ouvert, mais à la fin, ben, ça reste un pick-up and delivery un peu chiant, quoi. Malheureusement.
Bon, en tout cas, sur la couverture, tous les marchands, ils ont l'air tous potes. Hein. T'as l'impression que ça fait un peu fête de village.
Ah, très, très stéréotypé entre aussi, les visuels à ce niveau-là de Tanguy Vassia. Ouais. Voilà, donc pour les marchands de Karanor, que bof, je vous conseille. Moi, je suis content d'avoir essayé parce que c'est un jeu que je connaissais pas du tout. Ouais, je suis toujours curieux de trucs où j'en ai jamais entendu parler. Mais bon, je doute de rejouer si on me le propose, quoi.
Bon, en tout cas, il n'a pas assez de commentaires pour en faire en toute mauvaise foi.
Non, c'est clair.
Je vais regarder sur le GG. Il n'y a que 22 avis. C'est un peu faible.
Ouais. Et toi, Père Castor, tu as joué à quoi récemment ?
Eh ben, écoute, on va quitter le monde où tout le monde est sympa et tout le monde fait la fête. On va aller dans un univers un petit peu plus sombre. Est-ce que je vais vous parler du jeu Le 51e État, ou dans sa version originale The 51st State. Alors, c'est un jeu d'Ignacy Trevicek. Alors, il a une histoire, ce jeu, puisque la première version, elle est sortie en 2010. On pouvait trouver la version française chez Yellow.
Je la possède, pour info.
Ah ouais, là, donc en boîte rectangulaire avec le masque à gaz sur la couverture.
Ouais, hein. Exactement. Ouais. À l'époque, tu sais, moi, je suis en mode « Waouh, un jeu genre Race for the Galaxy, il faut absolument que je l'achète !» Quelle erreur ce fut de ma part.
Et tu n'as pas joué? Si, non.
Si, j'y ai joué, mais... enfin... Tu vas peut-être en reparler, je ne sais pas si tu as bien aimé, mais moi cette version, je l'ai trouvée nulle à chier.
Alors, effectivement, et même des aveux de l'auteur, il l'avoue dans une vidéo quand justement il présente les versions successives du jeu, puisqu'en 2011, il a sorti The New Era, qui est une extension, mais en même temps, c'est un stand-alone, puisque tu n'es pas obligé d'avoir la boîte de base pour y jouer. Tu sais, c'est l'époque où ils sortaient les extensions, comme pour Dominion. Tu pouvais acheter Dominion l'Intrigue, qui était une extension, mais qui était aussi en mode standalone. Et ça venait rajouter notamment de l'interaction, puisque le jeu de base manquait cruellement d'interaction. Tu es dans un univers post-apo où normalement, ben, les choses se passent pas de manière amicale, et justement, là, ça manquait un petit peu de bastonnade entre les joueurs. Mais la version dont je vais vous parler, c'est la version qui est sortie en 2016, qui s'appelle le Master Set, puisqu'il regroupe donc les cartes de base, certaines cartes de l'extension New Era, et aussi certaines cartes de l'extension Winter. Donc là, t'as vraiment un jeu complet qui propose une proposition très sympathique, et qui a notamment été refondu, et qui pourrait presque être interprété comme une évolution du jeu Imperial Settlers, du même auteur, qui est sorti en 2014, qui était lui-même déjà inspiré de 51e État, première édition.
Ouais, moi, c'est celui-là que j'ai depuis... je me rappelle à l'époque, parce que moi, j'ai la version anglaise du jeu, donc de Portal, et c'était déjà l'époque où tu te disais, est-ce qu'ils vont le faire en lock ou pas, parce que donc, je crois que ça avait été c'était atterri chez Philo à l'époque. Je sais plus.
Non, Edge.
Edge.
C'est Edge qui
avait fait... Il y avait eu des débats comme ça, et moi je me disais, ouais, est-ce qu'il y a de la place ? Franchement, ce jeu-là, sans texte et tout, les gens qui étaient intéressés l'ont déjà acheté. Et c'est aussi l'époque, je pense, où j'ai commencé à voir ces visuels rondouillards, tu sais, très lisses, et où je trouvais qu'on les voyait un petit peu partout, ce type de traits.
T'avais Via Nebula aussi, qui était un peu dans la même veine.
Uniformisation de la proposition visuelle, où il n'y a plus de masque à gaz, et où tout le monde a l'air beau et gentil. Ça rappelle plus pour le coup Karanor, justement. Karanor.
C'est ça, exactement. Ouais, c'est plus coloré, plus sympa. Parce que même en termes de ressources, hein, parce que dans 51e État, là, tu vas, en termes de ressources que tu vas gérer, tu vas avoir des flingues, tu vas avoir des jerrycans d'essence, tu vas avoir des briques, tu vas avoir des composants des composants électroniques ou mécaniques, alors que dans Imperial Settlers, tu gérais plutôt des pommes, du bois et de la pierre. Ah, ouais. C'était, c'était on va dire, plus familial en termes d'accessibilité. Ouais.
Je sais pas si tu sais, mais 51e méta, tu sais, c'est dans l'univers de Neuroshima X.
Ah oui, c'est ça, ouais.
Oui, tout à fait, ouais.
C'est pour ça, en fait, il recyclait un peu sa licence.
T'es dans un univers très, très sombre, hein, où t'es un peu dans un univers à la Mad Max ou à la Fallout.
Ouais.
Oui, voilà.
Et, mais au-delà de l'univers qui a évolué entre Imperial Settlers et la deuxième édition de 51e méta, t'as aussi la mécanique du jeu qui a évolué. Puisque dans... là maintenant, tu es dans un jeu de type course. Donc, tu n'es plus en nombre de tours fini, chose que tu avais dans la première version de 51e méta et dans Imperial Settlers. Ou d'ailleurs, certains tours, si tu foirais un tour, ça pouvait être compliqué de rattraper ça au tour suivant. Là, je trouve en tout cas que la partie elle est beaucoup plus rapide. Tu vas peut-être faire moins d'action pendant une phase d'action avant la phase où tu vas te... tu vas passer en mode phase de production où tu vas régénérer tes différentes ressources. Tu vas quand même avoir pas mal d'interactions puisque tu vas un petit peu t'intéresser aux bâtiments qui ont été construits par tes adversaires pour aller les piller. Ça va te ramener des ressources. Et lui, en contrepartie, ça va lui créer ce qu'on appelle une ruine. Donc en fait, il va pouvoir réexploiter le bâtiment détruit pour reconstruire par-dessus. C'est de l'interaction qui est assez forte, mais pour autant, elle est pas purement destructive. Elle a un petit côté recyclage quand même, histoire de ne pas être 100% perdant. Bah, ce que j'aime bien aussi dans le jeu, c'est que bon, moi j'aime bien de toute façon les jeux à base de cartes, et il y a toujours moyen de faire quelque chose à ton tour avec ces fameuses cartes, puisque soit tu vas décider de les construire, soit tu vas décider de les piller, soit tu vas décider d'en créer des affaires, où en gros tu noues des contacts commerciaux avec le lieu qui est représenté sur la carte, et ça va venir enrichir tes productions sur les tours suivants, sur les phases de production suivantes. Donc tu as une petite phase de dinette où tu vas dépenser tes actions, tu vas construire des bâtiments, tu vas piller des bâtiments, tu vas créer des affaires, et comme ça, petit à petit, tu vas créer ton moteur, tu vas créer ton tableau en fait de cartes, où tu vas avoir trois typologies de cartes. Tu vas avoir des lieux de production, des lieux spéciaux, qui vont apporter des pouvoirs et des lieux d'action. Et l'interaction entre les joueurs, c'est pas seulement aller bousiller les bâtiments des autres, t'as également la possibilité d'aller venir squatter ou bénéficier, on va dire, des lieux de ce qu'on appelle des lieux de production ouvertes, où tu vas profiter des lieux de production d'un adversaire en envoyant tes ouvriers dessus, mais en contrepartie, ils vont y rester.
À la Keyflower,
et ça va te permettre d'enrichir tes... Tu vas bénéficier de plus d'ouvriers pour les tours suivants. Donc, moi, j'ai joué à deux avec mon fils, et c'est vrai que c'est des parties assez rapides. Hein. On arrive à torcher une partie en 30 minutes.
Okay.
On ne retrouve plus le côté asymétrique qu'on avait dans Imperial Settlers.
Ah ouais, okay.
Parce que dans Imperial Settlers, tu avais un deck de cartes commun,
ah ouais,
et tu avais aussi un deck de cartes propre à ta faction, okay, qu'en plus, tu pouvais deck-builder avant le démarrage, ouais, de la partie. Bon, ça, j'étais pas persuadé du...
Bah, c'est tout le problème du deck-building pré-party, quoi. Enfin, ça a tous les inconvénients, ouais, temporels.
Surtout
de
pour
ça,
un... Enfin... Oui, parce que ça voudrait dire que tous les joueurs autour de la table possèdent le jeu pour potentiellement créer, ouais, leur faction avant la partie, alors que, ouais, ça, c'était pas... Bon, ça, c'était un peu bancal, je trouvais, comme mode de fonctionnement. Là, dans 51e méta, c'est, t'as un deck commun uniquement. Mais par contre, tu retrouves... Alors, je ne vais pas dire de l'asymétrie, mais plutôt un archétype avec le peuple que tu vas jouer qui va avoir de la production et une légère orientation un peu différente. Okay. Mais ça te bride pas au niveau des actions.
Ouais.
Tu vois, par exemple, dans Imperial Settlers, si tu ne jouais pas les Romains, c'était très difficile d'avoir des épées, et donc il n'y avait quasiment aucune chance que tu ailles aller casser des bâtiments adverses. Alors que là, rien ne t'empêche de produire des flingues et de nouer des contacts hostiles pour aller détruire des bâtiments. Donc c'est plus ouvert, t'es moins enfermé sur ton peuple. Et ouais, donc ça te laisse quand même le champ assez libre par rapport aux actions. Donc globalement, ouais, une belle surprise. Il avait été déstocké dans sa version française il y a quelques années. Donc c'est vrai que j'avais acheté la boîte, mais j'avais pas encore eu l'occasion d'y jouer. Donc elle a enfin pu disparaître, la pile de la future joie, hein, comme on dit. Je m'étais aussi intéressé parce que en parallèle... l'éditeur en VO a sorti ce qu'ils appellent une Ultimate Edition. Alors, on avait la Master Set, et là maintenant on a l'Ultimate qui a fait l'objet d'une campagne GameFound en 2022. C'était une campagne de financement participatif express, parce que je crois que la campagne avait duré qu'une quinzaine de jours. Et là maintenant, dans l'Ultimate Edition, tu as toutes les extensions qui sont sorties et qui ont été rethématisées aussi avec les graphismes de Noroshima X. Et donc la grosse boîte, je crois qu'elle contient les 6 extensions. Donc ce qu'on avait déjà dans le Master Set, et en plus toutes les extensions standalone qui sont sorties par la suite.
Ok. Ouais, moi j'avais bien aimé Imperial Settlers à l'époque, alors j'ai pas joué depuis je pense 10 ans, mais notamment parce qu'il manque dans ce qui a disparu, quoi. J'aimais bien le fait qu'il y ait plusieurs peuples et que tu fasses un mélange entre ton deck propre et le deck commun, tu sais, qui donnait un peu un mélange entre un truc que tout le monde dit « Ah !» et puis justement des spécificités qui n'étaient pas, c'est pas la symétrie de route hein, du tout, mais voilà, une légère asymétrie qui teintait un peu ton peuple et derrière effectivement des trucs communs, mais... Du coup, je sais pas si je serais client de cette ouverture-là dont tu parles, qui t'offre, qui te dirige moins dans une direction, enfin qui te offre une direction un peu moins tranchée au début. Mais après, ouais, à voir. Moi, ça fait super longtemps ouais, que j'ai pas joué. Je l'ai toujours pas vendu, tu vois. Mais aussi parce que j'avais mis dedans les extensions et tout. Et tu sais que pour faire des annonces comme ça sur Ocasio, il faut dire bon bah dans la seule même boîte, il y a les extensions et tout, et que les gens le comprennent bien quoi que les extensions, mais c'est quand même dans la boîte de base. C'est aussi un frein à la vente, ce genre de conneries.
Ouais, parce que pour Imperial Settler, t'avais des extensions qui étaient des peuples ouais, complémentaires. Hein. T'avais les Atlantes et t'avais.
Ouais, il y en a eu plusieurs. Empires of the North,
t'avais
non,
des Aztèques.
Roll and Ride, je crois qu'ils ont.
Alors, ça, c'est encore un autre jeu dans l'affiliation, ouais. Empire du Nord, ouais. Mais celui-là, j'ai pas joué.
Donc, toi, Pionf, ça t'a pas chauffé plus que tes impressions de l'époque?
Moi, je te dis, la première version, j'avais pas aimé du tout. Imperial Settlers, j'avais un peu mieux aimé, pour le coup. Mais de toute façon, c'est la spécialité de Trevicek. Il fait une première édition pourrie de ses jeux, et ensuite, il les raffine, et puis il en fait une édition bien, quoi. C'est généralement ça. Donc, malheureusement, à l'époque, je tombais facilement dans le piège. Hein. Tu sais, l'année d'avant, j'avais acheté Stronghold aussi, première édition. Et qui était très foireux, mais pareil, très prometteur, quoi. C'est toujours ça le truc, en fait. C'est des jeux très prometteurs, mais qu'il faut attendre peut-être 5 à 10 ans avant qu'il en fasse une édition correcte. C'est un peu dommage, tu vois.
Bah, tu vois, le Master Set est sorti en 2016, donc il a fallu 6 ans entre la V1 et la...
Et toi, t'as attendu 10 ans presque pour y jouer, du coup. Tu vois, le patient gaming.
Voilà, c'est ça.
Du jeu de société. Ok, bah merci. Je vais aller écouter le dernier débrief des potes, là. Il pleut pas encore chez moi, donc je vais peut-être aller courir pour voir ça. Et puis voilà, et puis on se retrouve pour une partie à l'occasion.
Ça marche.
Allez, ciao.
À plus, jouez bien.
À plus.
Salut, jouez bien. Bye.